pollution de l'eau qui défile bruyante en contrebas.
Bueno, primero, el río tiene un color amarillento, que es el efecto.
La rivière a une couleur jaunâtre. C'est à cause d'une ancienne mine de charbon.
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Alice Munro, écrivaine canadienne de langue anglaise, est née en 1931 en Ontario, où elle est décédée en mai 2024. Elle est l'auteure d'une douzaine de recueils de nouvelles et d'un roman traduit dans le monde entier. Après avoir reçu de nombreux prix tout au long de sa carrière, elle devient en 2013 la première écrivaine canadienne et la première nouvelliste à recevoir le prix Nobel de littérature. Alice Munro est reconnue pour son sens exceptionnel de la construction. Son œuvre cherche une vérité universelle dans l'exploration de l'infime et du quotidien. En décrivant les névroses de gens ordinaires, souvent des femmes, elle en tire une réflexion douce-amère sur l'existence. La nouvelle que nous avons choisi de vous faire entendre s'intitule « Trou profond » et est extraite du recueil « Trop de bonheur » publié en 2013 aux éditions de l'Olivier.
Dans le panier les œufs mimosa. Elle détestait en emporter pour les pique-niques parce qu'ils faisaient des saletés partout. Sandwich au jambon, salade de crabe, tarte au citron, encore un problème d'emballage. Cool Aid pour les enfants, une demi-bouteille de Mum pour Alex et elle-même. Elle n'en boirait qu'une gorgée parce qu'elle allaitait encore. Elle avait acheté des flûtes de plastique pour l'occasion. Mais quand Alex les aperçut entre ses mains, il alla chercher les vrais, un de leurs cadeaux de mariage, dans le vaisselier. Elle protesta, mais il insista et se chargea personnellement de leur emballage et de leur transport. Le pique-nique était destiné à fêter la publication du premier article qu'Alex signait en solo dans la revue de géomorphologie. Il se rendait à Osler-Bluff, parce que le site était souvent mentionné dans l'article et que Sally et les enfants n'y étaient encore jamais allés. Ils parcoururent 2 ou 3 kilomètres sur une route de campagne défoncée, après en avoir quitté une autre en bien meilleur état, et arrivèrent à un emplacement destiné aux voitures où aucune n'était rangée pour le moment. Il y avait un avertissement grossièrement peint sur une planche qui aurait eu besoin de retouches. « Attention, trou profond !» L'orée des bois semblait parfaitement ordinaire et pas menaçante pour un sou. Sally comprenait évidemment que ces bois occupaient le sommet d'une haute falaise et s'attendait à trouver quelque part un point de vue impressionnant. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il leur fallût contourner presque aussitôt. De profondes crevasses, en fait. Certaines de la taille d'un cercueil, d'autres beaucoup plus grandes, comme des chambres taillées dans la roche. Des corridors zigzaguaient entre elles, des fougères et des mousses poussaient sur leurs parois. Mais pas assez de verdure pour former un coussin digne de ce nom par-dessus les éboulis qu'on apercevait tout au fond. Le sentier serpentait entre elles, tantôt sur de la terre tassée et durcie, tantôt sur des bandes de roches à la surface un peu irrégulière.
Waouh !
C'était les cris des garçons, Kent et Peter, 9 et 6 ans, qui couraient devant.
On ne s'écarte pas du sentier, lança Alex. Pas d'excentricité idiote. On ne fait pas les malins, vous m'entendez ? C'est compris ? Répondez !
Sally avançait en trébuchant plus vite qu'il ne lui était facile de le faire, chargée qu'elle était du sac de couche et de la petite Savannah. Le point de vue n'apparut pas avant qu'ils aient parcouru, sur ces sentiers de terre et de roches, ce qui lui sembla une distance de près d'un kilomètre, et n'en faisait probablement que la moitié. Il y eut alors un éclaircissement, l'intrusion d'un pan de ciel, et son mari fit halte devant. Il poussa un cri, signifiant qu'ils étaient arrivés et qu'il fallait regarder. Et les garçons s'exclamèrent, étonnés pour de bon. Émergeant des bois, Sally les trouva alignés au bord d'une avancée rocheuse surplombant la cime des arbres. Ou plutôt un étagement de cime sur plusieurs niveaux, découvrit-elle. L'été étalant ses champs loin en contrebas dans un miroitement de vert et de jaune. À peine déposée sur sa couverture, Savannah se mit à pleurer. « Elle a faim, » dit Sally. « Et Alex ?»«
Je croyais qu'elle avait eu son déjeuner dans la voiture. »
« C'est vrai, mais elle a faim de nouveau. » Attachant Savannah à l'un de ses flancs, elle ouvrit de sa main libre le panier du pique-nique. Ce n'était évidemment pas ainsi qu'Alex avait prévu les choses. Mais avec un soupir de bonne volonté, il sortit les flûtes à champagne de ses poches et les déballa, puis les coucha sur l'herbe. Le cool head est servi, puis le champagne. Sally et Alex trinquent, maladroitement à cause de Savannah. Sally avale sa gorgée, regrettant de ne pouvoir en boire plus. Elle sourit à Alex pour lui communiquer ce regret et peut-être aussi l'idée qu'il lui serait agréable d'être seul avec lui. Il boit son champagne et comme si la gorgée qu'elle a bu et le sourire qu'elle lui a adressé avaient suffi à l'apaiser, il entame le pique-nique. Elle lui indique les sandwichs dans lesquels il y a la moutarde qu'il aime, ceux qui contiennent la moutarde qu'elle et Peter préfèrent, et les sandwichs destinés à Kent, qui n'en aime aucune. Pendant ce temps, Kent s'arrange pour se glisser derrière elle et finir son champagne. Peter doit l'avoir vu faire, mais pour on ne sait quelle raison, il ne le dénonce pas. Sally découvre ce qui s'est produit un peu plus tard, et Alex l'ignore à tout jamais, parce qu'il a vite fait d'oublier qu'il restait quelque chose dans la flûte de Sally, qu'il remballe avec la sienne tout en parlant de la Dolomie au garçon. On peut croire qu'il l'écoute en engloutissant les sandwichs, puis dédaignant les œufs mimosa et la salade de crabe en se jetant sur les tartes.
« Faut que j'y aille, » dit Kent.
« Où ça ?»«
Faire pipi. »«
Non, mais je te jure. Vas-y. »«
Moi aussi, » dit Peter.
Sally serre les mâchoires, avant de laisser échapper le « Faites attention !» automatique. Alex lui lance un regard et approuve sa retenue. Ils échangent un vague sourire. Savannah s'est endormie, les lèvres molles autour du téton. Elle est en train de se reboutonner quand un cri leur parvient. Pas fort, mais lointain, diminuendo. Et Alex, debout avant elle, court déjà dans le sentier. Puis un cri plus fort qui se rapproche, c'est Peter.
Kent est tombé ! Kent est tombé ! Son père hurle. J'arrive !
Sally sera toujours convaincue d'avoir su aussitôt, avant même d'avoir entendu la voix de Peter, elle savait ce qui était arrivé. S'il y avait eu un accident, il ne pouvait être arrivé à son cadet, qui était courageux mais pas inventif. Pas m'as-tu vu ? Il serait arrivé à Kent. Elle voyait précisément comment. En faisant pipi dans le trou, en équilibre sur le bord, mettant Peter au défi, se mettant lui-même au défi. Il était vivant. Il gisait loin sur le pierrier au fond de la crevasse, mais il remuait les bras, cherchant à se relever, mais bien faiblement. Une jambe prisonnière sous le corps, l'autre bizarrement tordue. « Tu peux porter ta petite sœur ?» demanda-t-elle à Peter. « Alors retourne au pique-nique et pose-la pour la surveiller. C'est bien ça, mon fils. Tu es fort. Je sais que je peux compter sur toi. » Alex était en train de descendre dans le trou, agrippé à la paroi, disant à Kent de ne pas s'agiter. Il était à peu près possible d'atteindre le fond sans se blesser. La difficulté serait d'en sortir Kent. Fallait-il qu'elle court jusqu'à la voiture pour voir s'il y avait une corde, l'enrouler autour du tronc d'un arbre, ou peut-être autour du corps de Kent pour pouvoir le hisser quand Alex le soulèverait vers elle? Il n'y aurait pas de corde, pourquoi y en aurait-il eu? Alex était arrivé près de lui. Il se courba pour le soulever. Kent poussa un cri de douleur implorant. Alex le chargea en travers de ses épaules, la tête pendant d'un côté et les jambes inutiles, l'une formant un angle si bizarre de l'autre. Il se releva, fit un ou deux pas titubants, puis, sans lâcher Kent, se laissa tomber sur les genoux. Il avait décidé de ramper et se dirigeait, Sally le comprenait à présent, vers l'éboulis qui comblait en partie l'autre extrémité de la crevasse. Il lui cria un ordre sans lever la tête et, sans distinguer clairement un seul mot, elle comprit. Elle se releva, pourquoi s'était-elle agenouillée, et se fraya un chemin à travers les buissons jusqu'au bord où le pierrier arrivait à un mètre environ de la surface. Alex avançait accroupi, Kent en travers des épaules comme un gibier abattu. Elle lança « Je suis là, je suis là !» Quand Alex eut réussi à ramper, puis à se hisser hors du trou, ils récupérèrent les deux autres enfants et allèrent à l'hôpital de Collingwood. Il n'y avait apparemment pas de lésion interne. Les deux jambes étaient cassées. Une des fractures était nette, comme le dit le médecin. L'autre jambe était en miettes.
Kent dut passer le semestre suivant loin de l'école, d'abord en extension sur un lit médicalisé de location. Sally allait chercher, puis rapporter à son école les devoirs qu'il achevait en un clin d'œil. Puis on l'encouragea à se lancer dans des exposés qui n'étaient pas au programme. Il y en avait un qui s'intitulait « Voyage et exploration, un pays de votre choix ». « Je voudrais choisir ce que personne d'autre ne choisirait », dit-il. Lorsque Kent put retourner à l'école, les choses changèrent évidemment. Mais il continua de faire plus vieux que son âge, se montrant patient avec Savannah, qui était devenue entreprenante et têtue en grandissant, et avec Peter, qui faisait toujours irruption dans la maison dans un ouragan de calamité. Et il était particulièrement courtois avec son père, lui apportant le journal, sauvé in extremis des menottes de Savannah et soigneusement plié, tenant sa chaise quand il s'asseyait à la table du dîner. « Honneur à l'homme qui m'a sauvé la vie, disait-il, quand ce n'était pas. Le héros est de retour chez lui. » Ses proclamations avaient quelque chose de théâtral, mais sans rien de sarcastique. Elle tapait pourtant sur les nerfs d'Alex. Kent lui tapait sur les nerfs, lui tapait déjà sur les nerfs avant l'accident du trou profond. « Arrête, veux-tu, disait-il. » Et il s'en plaignait à Sally quand ils étaient en tête à tête.
« Tout ce qu'il dit, c'est que tu devais l'aimer, puisque tu l'as sauvé. »«
Non, je te jure, j'aurais sauvé n'importe qui. »«
Ne le dis pas devant lui, s'il te plaît.
Quand Kent entra au lycée, la situation s'améliora avec son père. Il choisit les études scientifiques, les sciences dures, pas celles moins abstraites de la Terre, et même ce choix ne se heurta à aucune opposition de la part d'Alex. Plus ce serait dur, mieux ce serait. Mais au bout de 6 mois d'université, Kent disparut. Ceux qui le connaissaient un peu, il n'y avait apparemment personne pour se prétendre son ami, dire qu'il avait parlé de gagner la côte ouest. Et une lettre arriva au moment précis où ses parents allaient se décider à prévenir la police. Il travaillait chez un vendeur de pneus dans la banlieue nord de Toronto. Alex alla l'y voir pour lui enjoindre de reprendre ses études, mais Kent refusa, disant qu'il était très content de l'emploi qu'il avait et qu'il était bien payé ou le serait bientôt car il attendait une promotion. Puis Sally alla le voir, sans le dire à Alex, et le trouva joyeux et grossi de quelques kilos. Il dit que c'était la bière. Il avait des amis à présent.
« C'est une phase, dit-elle à Alex quand elle lui avoua cette visite. Il a envie de goûter un peu à l'indépendance. »
« Il peut bien s'en empiffrer, si tu me demandes mon avis. » Kent ne lui avait pas dit où il logeait, mais c'était sans importance parce que, lors de sa visite suivante, on lui dit qu'il était parti. Gênée, elle croyait avoir surpris un rictus sur le visage de l'employé qui le lui a pris. Elle ne demanda pas où Kent était allé. Elle pensait d'ailleurs qu'il reprendrait contact sitôt qu'il serait de nouveau installé. C'est ce qu'il fit 3 ans plus tard. Sa lettre avait été postée de Needles, en Californie, mais il leur disait de ne pas chercher à l'y retrouver, qu'il ne faisait que passer. Kent n'avait pas écrit ce à quoi il était employé, ni par où il était passé, ni s'il avait noué des liens avec quiconque. Il ne s'excusait pas de les avoir laissés si longtemps sans nouvelles et ne s'enquérait pas des leurs, pas plus que de celles de son frère et de sa sœur. Par contre, il consacrait des pages et des pages à la vie qu'il menait, non dans ses aspects pratiques, mais quant à ce qu'il croyait devoir en faire et dans ce qu'il en faisait. « Je trouve tellement dérisoire, écrivait-il, qu'on soit censé s'enfermer dans un costume, je veux dire dans un costume d'ingénieur ou de médecin ou de géologue, que la peau finit par recouvrir le costume, je veux dire jusqu'à ce qu'on ne puisse plus jamais le retirer, alors qu'une chance s'offre à nous d'explorer le monde entier, de la réalité intérieure et extérieure, et de vivre d'une façon qui absorbe le spirituel et le matériel et toute la gamme du beau et du terrible accessible au genre humain. » C'est-à-dire la souffrance aussi bien que la joie et le bouillonnement. Ma façon de m'exprimer vous semblera peut-être très emphatique, mais l'une chose à laquelle j'ai appris à renoncer, c'est bien la fierté intellectuelle. Plus loin dans sa lettre, ou dans son délire, comme disait Alex, Kent avait écrit qu'il avait eu plus de chance que la plupart des gens de faire ce qu'il appelait son expérience de la mort imminente, qui lui conférait une conscience plus aiguë, ce pourquoi il vouait une reconnaissance éternelle à son père qui avait fait l'effort de le ramener dans ce monde et à sa mère qui l'y avait accueilli avec amour. Peut-être qu'à ces instants, je suis rené. Alex avait poussé un grognement. Non, je ne le dirai pas.
Ne le dis pas, dit Sally. Tu ne le penses pas.
Je ne sais pas si je le pense ou pas. Après cette lettre qu'il signait, en les assurant de son amour, il ne leur donna plus jamais de ses nouvelles. Peter fit sa médecine, Savannah son droit, Sally se prit d'intérêt pour la géologie, ce dont elle fut la première surprise. Alex venait de prendre sa retraite de l'enseignement et projetait d'écrire un livre. Il lui fallait un assistant et il ne pouvait plus faire appel aux étudiants de troisième cycle, comme il en avait eu la possibilité à la fac. Elle ne savait pas si c'était vrai. Elle lui rappela qu'elle ignorait tout des pierres et il répondit que là n'était pas la question, qu'il pouvait l'utiliser pour l'échelle dans les photographies. Elle devint donc la petite silhouette vêtue de noir et de couleurs vives qui se détachait sur une couche de roche du Silurien ou du Dévonien. Ils furent bons amis au cours de ces dernières années, dont elle ne savait pas qu'elles étaient les dernières, tandis que lui le savait peut-être. Il entra à l'hôpital pour une intervention chirurgicale, emportant ses graphiques et ses photos avec lui, et le jour prévu de son retour à la maison, il mourut.
Cela s'était passé en été, et l'automne suivant, il y eut un incendie spectaculaire à Toronto. Sally regarda l'incendie et la télévision pendant un bon moment. C'était dans un quartier qu'elle connaissait, ou qu'elle avait connu autrefois, à l'époque où il était habité par des hippies, avec leurs tarots et leurs perles, et leurs fleurs en papier de la taille d'une citrouille. Et encore quelque temps par la suite, quand les restaurants végétariens se transformaient peu à peu en bistrots coûteux et en boutiques de luxe. C'était tout un pâté de ces immeubles du 19e que le feu ravageait. Le reporter était en train de le déplorer, parlant des gens qui avaient peuplé ces vieux appartements au-dessus des commerces et qu'on arrachait à leurs foyers détruits pour les mettre en sécurité dans la rue. Il ne s'était pas écoulé 10 minutes que le téléphone sonna. C'était Savannah.
« Maman, ta télé est allumée ? T'as vu ?»«
L'incendie, tu veux dire ? J'ai vu, mais j'ai éteint la télé. »
Non, est-ce que t'as vu? Je le cherche là en ce moment. Je l'ai vu il n'y a pas 5 minutes. Kent, maman, je ne le vois plus maintenant. Je l'ai vu.
Il est blessé? Je rallume. Il a été blessé?
Non, il était dans les secours. Il portait un brancard avec un corps dessus. Je ne sais pas si c'était un mort ou seulement un blessé, mais c'était Kent, c'était lui. On voyait qu'il boitait. Tu as mis ta télé?
Oui.
Bon, je vais me calmer. Je parie qu'il est retourné à l'intérieur de l'immeuble.
Mais on interdit sûrement au...
Peut-être... Il est médecin, qu'est-ce qu'on en sait? Ah merde, il rebalance l'interview du vieux de tout à l'heure. Sa famille avait un commerce là-bas depuis 100 ans. Bon, on raccroche et on regarde bien. Il sera sûrement de nouveau à l'image.
Mais non, les plans devenaient répétitifs. Savannah rappela.
Je vais en avoir le cœur net. Je connais un type au journal télévisé. Je peux me faire repasser ce plan, il faut qu'on sache.
Sally s'abandonna à un tremblement où se mêlait un désir lancinant et une profonde lassitude. C'était Kent, et une semaine ne s'était pas écoulée que Savannah savait tout de lui. Non, disons plutôt savait tout ce qu'il avait bien voulu lui raconter. Il vivait à Toronto depuis des années. Il était souvent passé devant l'immeuble où Savannah travaillait et l'avait aperçu 2 ou 3 fois dans la rue, dont l'une où il s'était trouvé nez à nez à un carrefour. Elle ne pouvait évidemment pas l'avoir reconnu parce qu'il portait une espèce de robe. « Hare Krishna ?» dit Sally.
« Oh maman, on peut être moine sans être forcément Hare Krishna. De toute façon, il ne l'est plus aujourd'hui. »«
Alors, qu'est-ce qu'il est ?»«
Il dit qu'il vit dans le présent. J'ai répondu qu'on en était tous là de nos jours, non ? Et il lui a dit qu'il parlait de la réalité présente. »
Là où il se trouvait pour le moment, avait-il dit, à quoi Savannah avait répondu.
Tu veux dire dans ce rat pourri?
Parce que c'était bien ça. Le snack où il lui avait donné rendez-vous était un rat pourri. Je ne le vois pas comme ça, avait-il dit. Mais il avait ajouté qu'il ne voyait rien à objecter à sa façon à elle de le voir, ni à celle de qui que ce soit.
Dis donc, quelle générosité,
avait dit Savannah, du ton de la plaisanterie, et il avait ri vaguement jaune. Il avait lu l'annonce du décès d'Alex dans le journal et l'avait trouvé bien. Il pensait que les références à la géologie auraient plu à Alex. Il s'était demandé si son nom serait mentionné avec celui des autres membres de la famille et avait été plutôt surpris de l'y trouver. Il s'interrogeait, était-ce son père qui leur avait donné la liste des noms qu'il souhaitait avant de mourir? Savannah avait dit que non, qu'il n'avait pas prévu de mourir si vite. C'était les autres membres de la famille qui avaient conféré et décidé que le nom de Kent devait figurer. Pas papa, dit Kent, bien sûr que non. Et Sally, avait-il demandé ensuite? Sally sentit comme un ballon gonflé dans sa poitrine. Qu'est-ce que tu lui as dit?
J'ai dit que ça pouvait aller, que tu étais peut-être un peu perdu. Vous étiez si proches, papa et toi. Et tu n'as pas encore eu beaucoup le temps de t'habituer à être seul. Après, il m'a dit de te dire que tu pouvais aller le voir si tu en avais envie. Et j'ai répondu que je te poserais la question.
Sally ne répondit pas.
Tu m'écoutes, maman?
Il a dit quand et où?
Non. En principe, je dois le revoir dans une semaine au même endroit pour le lui dire. J'ai l'impression qu'il aime plutôt avoir l'initiative. Je croyais que tu dirais oui tout de suite.
Évidemment que je dis oui.
Tu n'as pas peur d'y aller toute seule?
Sois pas bête. C'est bien lui que tu avais vu pendant l'incendie?
Il n'a pas voulu dire ni oui ni non, mais d'après mes renseignements, c'est oui. Il est très connu apparemment dans certains quartiers de la ville et par certaines personnes.
Sally reçoit un mot. La chose est déjà exceptionnelle en soi, parce que la plupart des gens qu'elle connaît communiquent par courriel ou par téléphone. Elle est contente qu'il n'ait pas téléphoné. Peut-être n'était-elle pas encore prête à entendre sa voix. Le mot contient les instructions suivantes. Elle laissera sa voiture sur le parking, en bout de ligne, pour prendre le métro jusqu'à telle station où il l'attendra. Elle pensait le voir de l'autre côté du tourniquet, mais il n'y était pas. Il avait probablement voulu dire qu'il l'attendrait à l'extérieur. Elle monta les marches et sortit dans la lumière du soleil et s'arrêta, toutes sortes de gens pressés la frôlant au passage. Sur les marches d'une ancienne banque, juste au-delà de l'entrée du métro, plusieurs hommes étaient assis ou vautrés, certains dormaient. Ce n'était plus une banque, évidemment, alors que son nom était gravé dans la pierre. Elle regarda ce nom plutôt que les hommes, dont les postures avachies ou allongées ou abandonnées contrastaient tant avec les anciennes fonctions du bâtiment et la hâte de la foule qui sortait du métro.
« Maman ?»
Un des hommes qui était sur les marches vint à sa rencontre sans se presser, traînant un peu la jambe. Elle se rendit compte que c'était Kent et l'attendit. Elle serait aussi bien partie en courant. Mais elle vit alors que parmi ces hommes, certains ne semblaient ni crasseux ni désespérés et qu'ils la regardaient sans hostilité ni mépris et même avec un amusement amical maintenant qu'ils savaient qu'elle était la mère de Kent. Ce dernier ne portait pas de robe. Il avait un pantalon gris, trop grand pour lui, ajusté par une ceinture, un t-shirt sans inscription et un blouson très usé. Ses cheveux étaient coupés si courts qu'on ne voyait pas ses boucles. Il était tout à fait gris, le visage marqué. Il lui manquait des dents et son corps d'une extrême maigreur le faisait paraître plus vieux que son âge. Il ne la prit pas dans ses bras. Elle ne s'y était d'ailleurs pas attendue. Mais lui posa légèrement une main dans le dos pour la diriger là où il voulait aller. En descendant d'un trottoir, il lui effleura le bras. Peut-être avait-il trébuché, et il dit
« Excuse-moi ».
Elle crut qu'il avait eu l'ombre d'un frisson, le sida. Pourquoi n'y avait-elle encore jamais pensé ?
Non, fit-il, alors qu'elle ne l'avait certainement pas dit tout haut. Je vais très bien à présent. Je ne suis pas séropositif, ni rien de ce genre. J'ai attrapé le palud il y a quelques années, mais je n'ai plus de crise. Je suis un peu à plat en ce moment, mais pas de quoi s'inquiéter. On tourne ici, c'est juste là dans ce pâté de maison que nous sommes. Je ne suis pas médium, reprit-il. J'ai fini par comprendre une des questions que Savannah n'arrivait pas à me poser, et je me suis dit que mieux valait vous rassurer. C'est là, nous y sommes.
C'était une de ces maisons dont la porte principale donne directement sur le trottoir par quelques marches.
Je vis dans le célibat, en fait,
dit-il en lui tenant la porte. Un rectangle de carton était agrafé à la place d'un des carreaux. Le plancher nu craquait sous le pied. Une odeur complexe s'était insinuée partout. L'odeur de fumée de la rue avait éminemment pénétré, mais il s'y mêlait des relents de vieilles cuisines, de café brûlé,